Histoire de l'uniforme.
Composé des mots latins, unus, un, et, forma, la forme, c'est-à-dire qui a une seule et même forme, l'origine de l'uniforme est relativement récente dans les armées. Son adoption s'imposa au fur et à mesure que l'organisation militaire reçut plus de consistance et de régularité. Nous développerons dans ce dossier quelques notes historiques pour permettre au lecteur de mieux appréhender les circonstances dans lesquelles l'uniforme a subi des transformations majeures. Ce dossier est consacré à l'histoire de l'uniforme dans les armées. Il comporte 6 chapitres. Premier chapitre, les armées jusqu'au XVIIe siècle. Deuxième chapitre, introduction de l'uniforme dans les armées sous Louis XIV. Troisième chapitre, évolution de l'uniforme sous Louis XV. Quatrième chapitre, évolution de l'uniforme sous Louis XVI. Cinquième chapitre, l'uniforme sous la Convention. Sixième chapitre, l'uniforme sous le directoire. Premier chapitre.
Les armées jusqu'au XVIIe siècle. Les casaques d'armes.
Avant sa mise en place, la tenue variait suivant les régiments. Les chefs et les soldats adoptaient en temps de guerre l'habit qui convenait le mieux à leur goût, à leurs habitudes. Pour se distinguer, chaque colonel adopta la couleur de son blason. Les plumes, les nœuds, les rubans se multipliaient sur le costume de l'officier et du soldat selon leur fortune, leurs caprices et leur succès féminin. Toutes ces superfluités n'avaient aucune utilité pratique et n'étaient conservées que par le culte du souvenir. Ces ornements participaient à flatter le soldat, et pas seulement, lui garantissant une certaine fierté à les porter, mais également une obligation morale d'accomplir pleinement son devoir afin de ne pas les déshonorer. Certains chefs pouvaient arborer des tenues parfaitement remarquables au risque de présenter une cible potentielle sur un champ de bataille, mais permettaient aux soldats d'avoir un point de repère dans la bataille. On se souvient d'Henri de Navarre et de son fameux « Ralliez-vous à mon panache blanc » avant la bataille d'Ivry qui eut lieu le 15 mars 1590. À défaut d'un uniforme leur permettant de se distinguer, les corps militaires des nations en conflit usaient de signes de reconnaissance. Ainsi les Français marquaient leurs vêtements d'une croix blanche, mais ils n'étaient pas les seuls. La différence se faisait alors sur d'autres éléments de l'habit. Une différenciation aussi peu tranchée produisait souvent la confusion dans les rangs et les cornettes et autres étendards étaient de peu de secours. Ainsi, la tenue des soldats se bornait à des signes de convention qui ne s'étendaient même pas jusqu'à la casaque. Seules, les compagnies d'ordonnance créées sous Charles VII se distinguaient des autres troupes, car les gendarmes qui les composaient étaient entièrement équipés d'une armure par-dessus laquelle ils portaient une cotte d'armes à la couleur de leur capitaine. Une ordonnance de 1549 régla la tenue des hommes d'armes et archers, leur armure et leur équipement. Ainsi, ledit homme d'armes sera tenu de porter armé, petit et grand garde-bras, cuirasse, cuisseau devant de grève avec une grosse et forte lance et entretiendra 4 chevaux, les 2 de service pour la guerre, dont l'un aura le devant de barde avec le chanfrein et les flancs et si bon lui semble, aura un pistolet à l'arçon de la selle. L'archer portera pour l'habillement de teste bourguignonne, cuirasse, avant-bras, cuisseaux et la lance et aura et entretiendra 2 chevaux l'un de service pour la guerre, portant le pistolet à l'arçon de la selle. C'est donc peu après le début du XVIIe siècle que les combattants furent armés et vêtus d'un casque en fer, appelé salade ou bassinet, d'un bouclier, d'une casaque de peau de buffle, d'un pourpoint en toile rembourrée de laine ou de coton, c'était le hoqueton, auquel on ajoutait quelquefois une cotte de mailles ou brigantine.
Les écharpes.
Les casaques, qui servaient de marque de reconnaissance grâce à leur couleur ayant disparu, furent remplacés par des écharpes de couleur. L'usage de ce signe distinctif datait de Saint-Louis. À cette époque, le port de l'écharpe tenait plus de la coutume chevaleresque que du règlement militaire. Ces étoffes, principalement blanches, que les chevaliers saignaient sur leur poitrine, leur rappelaient l'engagement qu'ils avaient formé pour leur dame lorsqu'ils recevaient d'elle l'honorable distinction. En flattant leur orgueil, ces écharpes étaient un puissant moteur d'honneur et de bravoure. Cette coutume, fondée sur la galanterie et la vanité, se révéla d'être d'une certaine utilité lorsque les chevaliers servirent en grand nombre. On reconnut que, dans l'enchevêtrement des batailles, il manquait aux armures de faire une marque permettant de distinguer les chevaliers et, par ce motif, cet ornement galant fut transformé en un signe de ralliement. Apparurent alors au XIIIe siècle les écharpes aux couleurs convenues. La France conserva le blanc suivant la coutume chevaleresque, bien que la couleur royale était le pourpre de l'oriflamme, mais dans un royaume où la puissance des vassaux disputait sans peine celle de la couronne, le blanc fut choisi comme couleur d'alliance entre chevaliers des diverses provinces. Peu à peu cette marque distinctive fut portée aussi bien par les officiers que par les soldats. Avec la création des compagnies d'ordonnance, sous Charles VI, l'écharpe cessa d'être blanche. Encore en usage sous Louis XI, elle fut abandonnée sous Louis XII et François Ier. Pourtant, l'écharpe revint à la mode sous Henri II et remplaça dans l'uniforme l'usage des casaques. L'écharpe se mettait sur la cotte d'armes ou par-dessus l'armure, suivant le caprice du moment ou l'époque. Son usage perdura et fut longtemps le seul signe d'uniforme. Henri II imposa aux compagnies d'ordonnance une deuxième écharpe en bandoulière, l'une à droite, l'autre à gauche. La première était l'emblème de la couronne, la seconde était aux couleurs du capitaine de la compagnie. Charles IX et Henri III portaient l'écharpe rouge tandis que les Huguenots et leur chef la portaient blanche. En 1591 les Ligueurs la portaient noire. Chaque nation avait également sa couleur, celle des Anglais et des Savoyards était bleue, celle des Espagnols, rouge, celle des Hollandais, orange, celle des Autrichiens, noir et jaune, etc. Après la paix de Ryvic signée en septembre 1697, on s'interrogea sur l'utilité de cet effet. On reconnut que l'écharpe était devenue une décoration sans objet, coûteuse, embarrassante, voire même, dangereuse dans la mêlée. On n'en fit plus usage dans la guerre de 1701, comme le prouvent les ordonnances des troupes françaises. En 1695 et en 1703 elle fut entièrement abolie dans l'infanterie qui depuis avait adopté le fusil et dont les soldats étaient désormais ceints de la bandoulière soutenant la giberne. L'uniforme, qui caractérisait désormais beaucoup mieux les troupes françaises la rendit définitivement caduque. Son souvenir fut cependant conservé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans la couleur que l'on donna aux bandoulières. Ainsi, les compagnies de gendarmes et de chevaux légers avaient pour se distinguer des bandoulières violettes, vertes, aurore, rouges, jonquilles ou bleues, les sangs suisses avaient leurs bandoulières de peau blanche frangées de soie rouge, bleue et blanche. Les bandoulières des gardes de la porte étaient à carreaux d'or et d'argent, celles des gardes du corps étaient, pour la première compagnie, à carreaux de soie blanche et d'argent, pour les trois autres à carreaux de soie verte, de soie bleue et de soie jaune et d'argent. On les porta jusqu'en 1830.
Le hoqueton.
À ces époques, l'uniforme proprement dit n'existait pas. L'État ne fournissait pas d'habillement aux troupes et chacun s'habillait à peu près à sa guise. L'uniformité s'obtenait naturellement par la position sociale des individus. La draperie de luxe, les soies, les broderies d'or ou d'argent étaient réservées à ceux qui avaient les moyens de se les offrir, les nobles et les bourgeois. Cette richesse s'accompagnait le plus souvent d'une grande variété de modèles répondant aux goûts ou aux caprices de leurs destinataires ou de la mode du moment. Ceux qui n'entraient pas dans cette catégorie de gens fortunés devaient se contenter de la draperie courante qui comptait de très nombreuses fabriques dans le pays. C'est avec ce drap grossier aux couleurs limitées que les tailleurs confectionnaient des vêtements correspondant aux formes habituellement en usage dans chaque profession suivant les modèles imposés par les coutumes régionales et de l'époque. La paysannerie, qui représentait l'essentiel de la population française, était ainsi vêtue d'effets qui, par ses formes et ses couleurs, devaient avant tout permettre à celui qui les portait d'accomplir avec commodité son ouvrage. Ces habits du quotidien étaient donc très similaires parmi la population. Ainsi, la troupe principalement recrutée au sein de la population campagnarde se trouvait-elle habillée d'une manière presque uniforme, tandis que les officiers, issus uniquement de la noblesse, faisaient montre d'extravagance en revêtant des habits de grande facture et richement décorés. On retrouve cependant le premier élément d'uniforme dans les anciennes ordonnances concernant les compagnies d'ordonnance. Les hommes d'armes, archers, coustiliers et pages de ces unités avaient l'obligation de porter le hoqueton à la devise de leur capitaine. Cette mesure avait été ordonnée, non pas dans un souci d'uniformisation vestimentaire, mais à des fins d'identification. En effet, les rois voulaient absolument éviter que les hommes enrôlés dans ces cornettes vers 1590 vêtus de son hoqueton compagnies et donc soldés par la couronne, se livrassent au pillage, vol et autres crimes en profitant de leur équipement militaire et de leur expérience acquise au combat. Ainsi, dans une ordonnance du 20 janvier 1514, François Ier ordonnait que les capitaines des 10 gens de guerre fassent toujours porter à tous archers, coustiliers et pages de leur compagnie, hoquetons à leur devise tant à la ville qu'au champ, et pour faciliter leur identification, le roi exigeait que la livrée de chacun capitaine soit envoyée par les sénéchaussées et balliages afin que quand ils feront les mots que l'on puisse connoître de quelle compagnie chacun sera pour en faire réparation. Ceux qui espéraient passer outre cette obligation et se faisaient arrêter sans leur livrée étaient remis aux officiers de justice du lieu pour être jugés, comme gens vagabonds et sans aveu. Quant à ceux qui changeaient leur hoqueton pour celui d'une autre compagnie, ils s'exposaient à être privés des ordonnances du dit seigneur pour l'avoir changé et s'il le fait pour un cas criminel, il sera exécuté par justice. L'obligation du port des sais et hoquetons à la livrée et couleur de leur capitaine fut réitérée dans les règlements concernant la gendarmerie du 12 janvier 1533 et du 4 janvier 1545. Son fils Henri II confirma cette exigence en 1547, en précisant que ceux qui s'y soustrairaient s'exposaient à être punis de mort. Dans une nouvelle ordonnance de novembre 1549, il maintenait cette obligation pour les hommes d'armes et archers des compagnies. Cependant, l'orgueil des capitaines avait rendu ses vêtements coûteux par la qualité des tissus utilisés et l'ajout de divers ornements, le roi décidait alors qu'ils seraient désormais en drap simple, bordé d'une simple bande de velours ou de soie. Dans son ordonnance du 12 février 1566, Charles IX réaffirmait cette directive et déclarait que ceux qui ne la respecteraient pas seraient châtiés corporellement. En février 1574, il renforçait ses dispositions en spécifiant qu'à défaut d'être vêtus de leurs sais ou hoquetons, les gendarmes ne pourront loger en aucune maison des lieux où ils passeront. C'était une remarquable mesure incitative à une époque où les compagnies étaient itinérantes et logées chez l'habitant à chaque étape. Ces vêtements, qui demeuraient à la charge de chaque homme d'armes, continuaient d'atteindre des prix exorbitants à cause des prétentions de leurs capitaines qui les voulaient toujours plus brillants. Reprenant une prescription de son père sur leur coût, Charles IX décidait de fixer leur prix maximum à 40 livres tournois pour les hommes d'armes et à 30 livres pour les archers. À charge pour les capitaines de payer sur leur denier le surplus de ces sommes si leur vanité ne s'en satisfaisait pas. Parvenu à la couronne, Henri III, dans une ordonnance de février 1584, perpétua l'obligation du port des sais et hoquetons à la livrée des capitaines pour les soldats des ordonnances. Il reprit les dispositions de ses prédécesseurs sur le coût de ses vêtements en fixant un prix maximum pour les hommes d'armes et archers. Ainsi, le port du premier effet d'habillement uniforme du soldat était avant tout une mesure de police destinée à maintenir dans le droit chemin les hommes d'armes et archers des compagnies d'ordonnance. En étant parfaitement identifiable, le risque de pillage et violence commis contre les populations était réduit au mieux. Pour les plus hardis, les peines les plus sévères étaient là pour leur rappeler à quel sort leur entreprise téméraire les destinait. On peut voir ici les prémices de ce qui sera plus tard l'uniforme. Cette mesure fit déjà apparaître un phénomène qui nuira beaucoup aux troupes, la mégalomanie des capitaines. Ainsi, pour satisfaire leur orgueil, ces officiers n'avaient pas hésité à faire de ces simples sais et hoquetons des objets de valeur en parfaite contradiction avec leur simple fonction d'identification. Cette complaisance vaniteuse s'appliquera plus tard sur les autres parties des vêtements du soldat et du cavalier. Elle devra encore être fermement combattue par la couronne jusqu'à ce qu'elle se décide à financer elle-même les uniformes et interdise aux officiers de les modifier sous peine de sanction. Les chevaux légers avaient eu la casaque de la couleur de la cornette, la cavalerie légère, vers 1639, portait à peu près uniformément le chapeau à plumes, le justaucorps de buffle avec la cuirasse, la culotte bouffante et les bottes à entonnoir. C'était une mesure générale pour la cavalerie régulière, mais rien n'existait pour l'infanterie.